Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, troisième cassette, deuxième face. La décision de Tom était prise. Il avait choisi sa carrière. Dès le lendemain, il quitterait la maison et commencerait sa nouvelle vie. Il lui fallait donc se préparer dès maintenant et rassembler tout ce qu'il possédait. Il alla vers un tronc d'arbre abattu qui se trouvait près de lui, et à l'une des extrémités, il se mit à creuser un trou en terre avec son canif. Tout à coup, il heurta un objet en bois qui sonnait le creux. Il plongea la main dans le trou et avec recueillement prononça l'incantation rituelle « Que ce qui n'est pas venu vienne, que ce qui est venu reste. » Continuant à creuser, il dégagea une planche qu'il sortit du trou. Sous la planche, il y avait une cachette formée de pierres plates et dans la cachette, une bille. Prodigieusement étonné, Tom se gratta la tête et s'écria « Ah, ça c'est un comble !» Avec humeur, Tom jeta la bille au loin, puis il réfléchit. Il venait de constater qu'une superstition que ses camarades et lui avaient toujours considérée comme infaillible se révélait inopérante, inefficace. Elle consistait à enterrer une bille en prononçant certaines formules magiques, à laisser les choses en l'état pendant 15 jours, à rouvrir ensuite le trou en prononçant les mêmes incantations, moyennant quoi on devait retrouver, réunis dans la cachette, toutes les billes qu'on avait perdues jusqu'à ce jour, et ce, quel que fût l'endroit où on les avait perdues. Mais dans le cas actuel, la recette avait lamentablement échoué. La confiance de Tom était fortement ébranlée. Jusqu'à présent, il n'avait entendu parler que de réussite et jamais d'un succès. Il ne tenait pas compte des expériences qu'il avait lui-même tentées à plusieurs reprises, car il n'avait jamais pu retrouver les cachettes. Il réfléchit et fut d'avis qu'une sorcière avait dû se mêler de l'affaire et rompre le charme. Il résolut d'étudier la question plus à fond, afin de se faire une opinion, et chercha aux alentours jusqu'à ce qu'il eût trouvé une petite surface sablonneuse, au centre de laquelle il y eut une dépression en forme d'entonnoir. L'ayant trouvé, il se baissa et la bouche tout contre le sable, il appela.
Fourmilion, fourmilion, dis-moi ce que je veux savoir. Fourmilion, fourmilion, dis-moi ce que je veux savoir.
Le sable commença à remuer et Tom vit apparaître un petit insecte noir qui, effrayé, disparut bientôt dans une galerie adjacente. « Il n'a rien dit, » pensa Tom. « C'est donc vrai qu'il y avait une sorcière là-dessous. Je m'en doutais. » Entrer en lutte contre les sorcières, c'était aller au-devant d'un échec. Tom n'insista donc pas. Mais après tout, pourquoi ne s'approprierait-il pas la bille qu'il venait de retrouver? Il entreprit de méticuleuses recherches, mais en vain. Alors, il revint à la cachette et se plaçant dans la position qu'il occupait quand il avait jeté la bille, il sortit une autre bille de sa poche et la lança exactement de la même façon en disant « Sœur, va rejoindre ta sœur !» Repérant soigneusement l'endroit où elle tombait, il y courut et regarda. Mais son tir avait été trop court ou trop long. Il dut recommencer deux fois. Le dernier essai fut couronné de succès. Les deux billes étaient à quelque 30 cm l'une de l'autre. À cet instant, la sonnerie d'une trompette d'enfant se fit entendre. Ta-ta-ta-ta ! Alors Tom retira sa veste et sa culotte, transforma ses bretelles en ceinture, écarta quelques broussailles derrière le vieux tronc, tira du fourré un arc, une flèche, une épée de bois, une autre trompette, et muni de tout ce fourniment, il s'élança en avant, les jambes nues, la chemise au vent. Arrivé sous un grand orme, il souffla à son tour dans sa trompette, « Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- en ovant sur les yeux, il regarda dans toutes les directions. S'adressant à une escorte imaginaire, il dit « Silence, mes braves! Restez cachés jusqu'à ce que je sonne du corps !» Et Joe Harper apparut aussi légèrement vêtu et aussi formidablement armé que Tom. « Halt !» s'écria Tom. « Qui donc pénètre dans la forêt de Sherwood sans ma permission ?»« Guy de Gisborne n'a besoin de la permission de personne !» répondit Joe. « Et qui donc es-tu pour tenir un pareil langage ?» souffla Tom en achevant la réplique, car l'un et l'autre jouaient de mémoire et ils répétaient mot pour mot les phrases de leur livre. « Qui donc es-tu pour tenir un pareil langage ?» reprit Joe. « Qui je suis ?» dit Tom. « Je suis Robin des Bois. Ta chétive carcasse la prendra bientôt. »« C'est toi, le redoutable hors-la-loi, Robin des Bois ?» « Je tiens à honneur de te disputer le passage sous ces grands arbres. En garde !» Ils saisirent leurs épées, se débarrassèrent du reste de leur attirail, prirent la position réglementaire, pied contre pied, et commencèrent un combat en règle, deux en prime et deux en carte. Au bout de quelques passes d'armes, les deux combattants étaient en nage. « Je te touche et tu meurs !» s'écria Tom. « Pourquoi est-ce que tu ne tombes pas ?»«
Je ne tombe pas ? C'est à toi de tomber !» répliqua Joe. « C'est toi qui n'en peux plus !»
« Eh ben quoi? Ça te fait rien? Je ne peux pas tomber. Dans le bouquin, il y a... » Alors, d'un coup de revers, il tua le pauvre Guy de Gisborne. « Tu dois te retourner et je te touche dans le dos. »
La citation faisait foi, rien à dire. Joe se retourna, reçut le coup et tomba.
« Maintenant, dit Joe, à moi de te tuer. Chacun son tour. »«
Ah, j'y peux rien, dit Tom. C'est pas dans le texte.
« Eh ben, c'est pas juste, voilà tout !»«
Écoute, Joe, dit Tom, tu n'as qu'un frère Tuck, et maîtrier avec un bâton de pèlerin, ou le fils de Mutch, le meunier, comme ça tu pourras me laisser pour mort. Ou alors, je fais le shérif de Nottingham, toi tu feras Robin des Bois, et tu me tueras. » Ainsi, Joe eut satisfaction. Ensuite, Tom redevint Robin des Bois. La nonne perfide le laissa perdre tout son sang, par sa blessure ouverte. Joe, personnifiant toute une tribu de hors-la-loi en pleurs, le releva et lui mit son arc en main.
« Là où tombera cette flèche, dit Tom, c'est là que vous enterrerez le pauvre Robin des Bois. »
Avec son arc, il tira une dernière flèche et s'affaissa.
Mais tombant sur un lit d'ortie, il se releva plus précipitamment qu'il n'eût convenu à un moribond.
Les deux gamins se rhabillèrent et rangèrent leurs équipements dans leurs cachettes respectives. Ils rentrèrent en trouvant que c'était bien dommage qu'il n'y eût plus de hors-la-loi et en se demandant ce que la civilisation moderne pouvait bien se vanter d'avoir fait pour compenser cette perte. Quant à eux, ils aimaient mieux être hors-la-loi pendant un an dans la forêt de Sherwood que président des États-Unis pour le restant de leurs jours. Chapitre 9. Drame dans un cimetière. À 9h cette nuit-là, Tom et Sid montèrent se coucher comme d'habitude. Ils firent leur prière et Sid ne tarda pas à s'endormir. Tom resta éveillé et attendit. Il bouillait d'impatience. À un moment où il croyait que le jour allait se lever, il entendit la pendule sonner 10h. C'était désespérant. Il s'énervait. Il aurait voulu bouger, mais il avait peur de réveiller Sid. Et il se tint silencieux, les yeux grands ouverts dans le noir. Le silence était sinistre. Petit à petit, de légers bruits se firent entendre. La marche de la pendule devint perceptible. Les meubles et l'escalier craquèrent. De toute évidence, les fantômes étaient en promenade. Un ronflement régulier provenait de la chambre de Tante Polly. Un grillon, impossible à repérer, émit son grésillement monotone. À l'intérieur du mur, à la tête de son lit, Tom entendit le tic-tac sinistre d'un Death Watch. Le Death Watch, ce qui veut dire l'horloge de la mort, est un insecte dont le cri ressemble à s'y méprendre au tic-tac d'une horloge, qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. Cela signifiait que les jours de quelqu'un étaient comptés. Dans le lointain, l'aboiement d'un chien éveilla un autre aboiement, plus lointain encore. Tom n'en pouvait plus. Il se dit que le temps avait dû faire place à l'éternité. Malgré tous ses efforts, il commença à somnoler. La pendule sonna 11 heures, mais il ne l'entendit pas. Dans un demi-sommeil, il crut percevoir le miaulement lugubre d'un chat. Une fenêtre s'ouvrit. On entendit « Encore cette sale bête !» Contre le mur du hangar à bois de sa tente, Tom entendit un bruit de bouteille cassée qui acheva de le réveiller. Une minute après, il était habillé, passait par la fenêtre et rampait à quatre pattes le long du toit de la pantie. En chemin, il miaula une ou deux fois avec précaution. Puis il passa sur le toit de la pantie et sauta à terre. Huckleberry Finn l'attendait avec son chat mort. Les deux gamins disparurent dans l'obscurité. Une demi-heure après, il foulait du pied les hautes herbes du cimetière. C'était un cimetière à l'ancienne mode de l'Ouest. Il occupait le sommet d'une colline à environ 2,5 km du village. Il était entouré d'une clôture irrégulière de planches mal équarries, penchées tantôt vers le dedans, tantôt vers le dehors, mais jamais droites. De mauvaises herbes prospéraient sur toute son étendue. Toutes les tombes anciennes s'étaient effondrées. Il n'y avait plus une seule pierre tombale intacte. Des planches à moitié pourries se dressaient de travers sur les tombes, cherchaient un point d'appui qu'elles ne trouvaient pas. Sur ces panneaux de bois, jadis la mention « à la mémoire de » avait bien été peinte, mais sur la plupart d'entre eux, il n'aurait plus été possible de la déchiffrer, même en plein jour. Les arbres bruissaient sous la caresse du vent. Tom croyait entendre la plainte des âmes des morts dérangées dans leur repos. Tout décontenancé, les deux gamins, parlant à voix basse, n'échangeaient que de rares réflexions. En un tel endroit, à pareille heure, le profond silence et l'ambiance d'austérité les paralysaient. Ils trouvèrent la tombe fraîchement creusée qu'ils cherchaient et se dissimulèrent dans un bouquet d'ormes à proximité. Ils attendirent quelques instants qui leur parurent interminables. Le ululement d'un chat-huant troubla le silence. Tom n'en pouvait plus. Il étouffait du besoin de parler. Il chuchota. « Lucky, est-ce que tu crois que ça leur fait plaisir aux morts que nous soyons là ?»«
J'en sais rien, » répondit Huckleberry sur le même ton.
et je voudrais bien le savoir. C'est impressionnant. Tu parles. Il y eut un silence, puis Tom reprit. Dis donc, Huck, crois-tu que le vieux William s'entend ce que nous disons? Bien sûr qu'il nous entend. En tout cas, son âme nous entend. Ah oui, dit Tom, j'aurais dû dire Monsieur Williams. Mais j'ai pas voulu le froisser. Tout le monde l'appelle le vieux. Ouais. On ne fait jamais assez attention à ce qu'on dit des morts, Tom. La réflexion de Huck jeta un froid. Le silence régna de nouveau. Tout à coup, Tom saisit le bras de son camarade. Chut ! Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda Huck, le cœur battant. Chut ! Tiens, on entend quelque chose. Tu n'entends pas ? Si, ils viennent, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas. Tu crois qu'ils nous voient ? Pas tout. Ils voient dans le noir, comme des chats.
Je voudrais bien être ailleurs, moi.
Allons, du cran, dit Tom. Je crois pas qu'ils nous en veuillent. Nous ne faisons rien de mal. Peut-être que si nous ne bougeons pas, ils ne nous remarqueront pas.
Je veux bien essayer de rester tranquille, Tom, mais je réponds de rien. Je tremblais comme une feuille.
Chut ! Écoute. Les deux gamins retinrent leur respiration. On entendait un vague murmure de voix venant de l'autre bout du cimetière. Regarde, là-bas, murmura Tom. Qu'est-ce que c'est ?
Ça doit être un feu follet. Oh, Tom, j'ai peur.
Plusieurs formes indistinctes s'approchaient dans l'obscurité. L'une d'elles balançait une lanterne de fer blanc qui projetait sur le sol d'innombrables petites lumières. Huck reprit.
Pour sûr, c'est les diables. Ils sont trois, Tom. Nous sommes fichus. Est-ce que tu sais tes prières?
Ouais, mais ne t'en fais donc pas. Ils ne nous feront pas de mal. Tiens, je vais me coucher par terre et faire semblant de dormir. Et puis, chut! Tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Huck? Ce sont des vivants. En tout cas, il y en a un. Je reconnais la voix de Meuf Potter. MU2F, plus loin, POTER. Sans blague, demanda Tom. Si, je la connais bien. Ne remue pas, ne bouge pas. Il n'est pas en état de nous voir, cette vieille fripouille. Il doit être saoul comme d'habitude. Entendu, Tom, je ne bouge pas. Les voilà qui s'arrêtent. Ils sont en panne. Trouveront pas ? Les voilà qui se rapprochent. Maintenant, ils brûlent. Ah non, là, c'est froid. Là, ils brûlent. Cette fois, ils y sont. Dis donc, Huck, il y a une autre voix qui ne m'est pas inconnue. Celle de Joé l'Indien. C'est ma foi vrai, dit Huck. C'est bien ce métis de malheur. Ah, j'aimerais mieux avoir affaire à de vrais diables. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Les deux gamins se turent, car les trois hommes étaient maintenant près de la tombe et se trouvaient ainsi à quelques pas de leur cachette. C'est ici, dit la troisième voix, dont le propriétaire, soulevant la lanterne, s'éclaira le visage. C'était le jeune docteur Robinson, R-O-B-I-N-S-O-N. Potter et Joe et l'Indien portaient un brancard sur lequel il y avait une corde et deux bêches. Ils déposèrent leur fardeau et commencèrent à creuser la terre. Le docteur mit la lanterne sur la tombe, à l'endroit de la tête du mort, et vint s'asseoir, le dos à l'un des arbres. Il était si près des enfants que ceux-ci auraient pu le toucher. Dépêchons, les gars, dit-il. La lune peut se montrer d'un instant à l'autre. Les deux hommes marmonnèrent une vague réponse et continuèrent à creuser. On n'entendait plus que le bruit monotone des bêches remuant la terre et le gravier. Finalement, l'un des outils heurta le cercueil avec un bruit sourd, et une minute ou deux après, les deux hommes le sortirent de terre. De leur bêche, ils forcèrent le couvercle, retirèrent le corps qu'ils laissèrent brutalement retomber sur le sol. La lune émergea de derrière un nuage et éclaira en plein la face du mort. Ils mirent le cadavre sur la civière, l'enveloppèrent d'une couverture et ficelèrent le tout. Potter tira de sa poche un couteau à cran d'arrêt, coupa l'extrémité de la corde et dit.
Le docteur, le travail est fait. Maintenant, vous n'avez plus qu'à nous aligner un autre billet que $5. Sinon, on vous laisse vous débrouiller avec le Maccabée.
Voilà qui est parlé, dit Joël l'Indien.
Voyons, qu'est-ce que cela signifie ? S'écria le docteur. Vous m'avez demandé de vous payer d'avance, je vous ai payé.
Sans doute, mais vous avez fait mieux que ça, répliqua Joe l'Indien, en s'avançant vers le docteur qui s'était levé. Il y a 5 ans, vous m'avez chassé de la cuisine de votre père, un soir que j'étais venu vous demander quelque chose à manger, et vous m'avez dit que si j'étais là, ce n'était sûrement pas pour faire de la bonne besogne. Et quand je vous ai promis qu'un jour j'aurais ma revanche, même si pour cela je devais attendre 100 ans, votre père m'a fait mettre en prison pour vagabondage. Vous croyez que j'ai oublié ? Ce n'est pas pour rien que j'ai du sang indien dans les veines. Maintenant, je vous tiens et nous allons régler nos comptes.
Il menaçait le docteur, lui mettant son poing dans la figure. Le docteur riposta d'un crochet qui mit le drôle par terre. Potter lâcha le couteau et s'écria
« Hé là, touchez pas au copain !»
Il empoigna le docteur à bras-le-corps. Les deux hommes engagèrent sur l'herbe une lutte farouche, martelant le sol de leurs talons. Joe l'Indien s'était relevé, ses yeux flamboyaient de colère. Il ramassa le couteau de Potter et, tournant comme une bête fauve autour des deux combattants, guetta l'occasion d'intervenir. Tout à coup, le docteur se dégagea, s'empara d'une pièce de bois provenant de la tombe de Williams et en porta à Potter un coup qu'il étendit sur le sol. Alors, Joe l'Indien bondit, plongea le couteau jusqu'à la garde dans la poitrine du jeune homme qui chancela et s'écroula sur Potter en le recouvrant de sang. À ce moment, la lune disparut derrière les nuages et cacha ce spectacle aux yeux des gamins qui, épouvantés, s'enfuirent dans l'obscurité de toute la vitesse de leurs jambes. Quand la lune reparut, l'Indien regardait les deux corps étendus à ses pieds. Le docteur murmura quelques syllabes inarticulées. Son corps fut agité d'un frisson et il rendit le dernier soupir.
« Notre compte est réglé !» murmura le métis. « Le diable t'emporte !»
Il vida les poches du cadavre, plaça le poignard fatal dans la main droite de Potter, puis il alla s'asseoir sur le cercueil ouvert. 3, 4, 5 minutes s'écoulèrent. Potter recommença à remuer, puis à gémir. Sa main se referma sur le poignard. Il le leva en l'air, le regarda d'un œil terne et avec un tremblement le laissa retomber. Puis il se dressa sur son séant, repoussa le cadavre et d'un air hébété regarda autour de lui. Son regard rencontra celui de Joe l'Indien.
« Bah, qu'est-ce que ça veut dire ? »
demanda-t-il.
« Sale affaire, » répondit Joe sans s'émouvoir. « Qu'est-ce qui t'a pris ?»«
Moi ? Ben, c'est pas moi qui ai fait ça !»«
Ne nie pas, ça ne sert à rien !»
Potter se mit à frissonner et devint blanc comme un linge.
« Ben, je croyais bien pourtant que j'étais plus sous. J'aurais pas dû boire cette nuit. Mais j'ai encore la tête lourde, oh, pire que quand nous sommes partis. Je n'y suis plus du tout. Je peux pas me rappeler ce qui est arrivé. Dis-moi, Joe... « Vrai de vrai, mon vieux. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça, Joé ? J'ai jamais voulu le faire, je le jure sur l'honneur. Dis-moi comment ça s'est passé. Oh, c'est affreux. Un homme si jeune et si plein d'avenir. »
« Eh bien, voilà. Vous vous battiez tous les deux. Il a pris ce bout de bois et il t'en a asséné un coup qui t'a fanclé par terre, dit Joé. Tu t'es relevé en titubant, comme tu as pu, tu as attrapé ton couteau, tu le lui as enfoncé dans le corps, juste au moment où il te frappait une seconde fois. Et sous le choc, tu es resté sans connaissance jusqu'à maintenant.
Oh là 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 là, je savais pas ce que je faisais, oh que je meurs si je ne dis pas la vérité, s'écria Potter. Tout ça, c'est la faute au whisky et à l'état dans lequel j'étais. Jamais de ma vie, jusqu'à maintenant, je me suis jamais servi d'une arme. Je me suis battu, oui, mais jamais avec des armes. Ça, tout le monde peut le dire, Joé. Faut pas raconter ça. T'es un bon type, Joé, raconte pas ça. J'ai toujours eu de la sympathie pour toi. J'ai toujours pris ton parti, tu te souviens ? Tu vas pas raconter ça, dit Joé.
Le malheureux tomba à genoux devant le misérable meurtrier et il le supplia en joignant les mains.
Non, dit Joé l'Indien, Tu as toujours été un bon copain, Meuf Potter. Je ne te dénoncerai pas. Je ne suis pas un faux frère.
Oh, bah t'es un chic type, Joey. Rien que pour ça, je te bénirai jusqu'à la fin de mes jours. Et Potter fondit en larmes.
Allons, dit Joey l'Indien, ça suffit. C'est pas le moment de pleurnicher. Allons-nous-en chacun de notre côté, toi par ici, moi par là. Brouille-toi, et surtout, ne laissons pas de traces derrière.
Potter s'éloigna lentement d'abord, et bientôt se mit à courir. Le métis le suivit des yeux et murmura.
S'il est aussi abruti du coup qu'il a reçu, et aussi saoul du rhum qu'il a bu qu'il en a l'air, il ne pensera plus à son couteau avant qu'il soit trop loin pour oser revenir le chercher tout seul. Poule mouillée, va.
Quelques minutes plus tard, le docteur assassiné, le cadavre de Williams dans sa couverture, le cercueil abandonné et la tombe ouverte n'avaient plus que la lune pour témoin. Le silence régnait à nouveau dans le cimetière.
Fin de la deuxième face de la troisième cassette. Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, page 86.